Son moment de soi.
Au Kassai occidental, une semaine après l'identification de la maladie qui sévit dans les zones de santé de Moïka et l'Ebo, comme la fièvre hémorragique d'Ebola, beaucoup d'efforts ont été fournis par différents partenaires pour freiner l'élan de cette maladie. Plusieurs réactions sont constatées à travers la population et les autorités sanitaires de la province sont versées dans la sensibilisation. Nous en parlons avec André Kambala et nous vous informons que nous aurons comme invité le docteur Floribert Ntumba Tshitoko, ministre provincial de la Santé. André Kambala, vous êtes en ligne?
Je vais en ligne, j'y ai.
Alors, comment réagit la population des Kananga depuis l'annonce de la fièvre hémorragique d'Ebola?
Dans la plupart des cas, j'y ai à Lungembo, note la prise de conscience de la population face à cette réalité. Pour preuve, certains habitants se saluent déjà par un coup de coude, tandis que d'autres s'en tiennent qu'à des signes plus distants de la main. Et une attitude qui n'est pas comprise par certaines personnes qui déclarent ne pas avoir eu d'informations solides sur l'épidémie d'Ebola. Il y a également ceux qui, clairement ou non, continuent de se saluer par des embrassades et des accolades. Mais sinon, de manière générale, la prise de conscience se lie aussi parmi les tradis praticiens et d'autres classes sociales. Pour les cas qui concernent les tradis praticiens, il faut dire tout de suite qu'ils se sont interdits même de recourir au traitement des cas suspects. Et ils se sensibilisent entre eux à envoyer de tels cas au personnel compétent. C'est pourquoi je préfère proposer à nos auditeurs de suivre le monsieur l'abbé Jean-Arthur Kabatelle, qui est président de l'association provinciale des tradis praticiens.
Je lui ai demandé d'avoir une attitude de réserve, c'est-à-dire de ne pas avoir la prétention de vouloir aborder tout de suite l'état de santé qui se caractérise par les céphalées, le vomissement, la fièvre et même la diarrhée sanguinolente. Parce que, malheureusement, selon l'investigation, les praticiens ne sont pas encore en possession des produits qui peuvent faire face à la crise d'Ebola. Parce que, depuis toujours, on n'a jamais connu cette crise. On en a parlé à Dupuis dans Bundu. Mais ici, on dirait que c'est la première fois que cette maladie se manifeste. Alors, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir les remèdes par rapport à une maladie qui ne s'était pas encore manifestée dans le milieu? J'ai demandé faire la mobilisation sociale et puis de transmettre tout de suite la nouvelle au personnel compétent.
Voilà, alors quelle est l'attitude des autorités sanitaires de la province? Quels conseils donnent-elles à la population?
Eh bien, le ministre provincial de la Santé, qui sera d'ailleurs notre invité, reconnaît qu'il est tout à fait difficile de changer les coutumes de mœurs de la société. Par conséquent, il recommande à la population de ne pas paniquer et surtout d'observer toutes les règles d'hygiène permettant à lutter efficacement contre les virus d'Ebola et en même temps de réduire la fréquence d'autres maladies liées à un environnement malsain et au manque de propriétés corporelles. Et il insiste vraiment que l'on puisse éviter de manger la viande des animaux morts subitement et la viande même boucanée. Il ajoute pour terminer qu'il faut respecter certains principes pendant l'enterrement d'un cas suspect ou d'un cas contact.
Et en dehors des Kananga, dans les zones de santé, d'où est partie la maladie, comment se comporte-t-elle la population?
Bien sûr, le Bojir Lungembo, où les sources hospitalières s'étonnent du fait que le mouvement de population ne soit pas rigoureusement contrôlé. Et selon toutes ces sources-là, de ces côtés-là, les gens partent de Kampungu à Lebo et de Lebo à Kampungu sans être inquiétés, sans vraiment qu'il y ait un contrôle tout à fait rigoureux. Et quand les autorités mettent du contrôle là-bas, la population crie déjà à la tracaterie. Alors, les gens partent, comme je le disais, comme ils le font. Toutefois, ces sources médicales du côté de Lebo rassure que tout cas de gastro-entérite aiguë fébrile n'est pas synonyme de fièvre d'Ebola. Donc cela a été même retenu lors du passage de l'équipe mixte gouvernement OMS à Lebo en fin de semaine. C'est pourquoi je vous propose de suivre le docteur Célestin Mamba, qui est médecin directeur de l'hôpital général de Lebo.
À partir d'hier, nous avons reçu la délégation du gouvernement, un représentant de la 4e direction et le représentant de l'OMS AC, le docteur Choco, qui nous ont amené la définition des cas Et ensemble avec eux, nous avons visité les malades qui étaient sur place. Il y avait 3 malades qui présentaient des gastro-entérites aiguës fébriles. Nous les avons examinés à partir de cette définition des cas. Ensemble, nous avons trouvé que les malades qui étaient sur place là ne répondaient pas exactement à cette définition des cas. Et ils nous ont proposé et les observer d'ici 3 jours pour voir comment ils vont évoluer.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les signes manifestes d'un cas d'Ebola?
Oui, selon le ministère national de la Santé hier, c'est toute personne qui présente un début soudain de fièvre élevée ou une personne qui saigne ou encore une personne qui fait la diarrhée rouge et des fois, surtout aussi des personnes qui sortent des urines dans leur sang. Et parmi les modalités qui présagent que la personne peut déjà être contaminée de la fièvre virale d'Ebola, le ministère de la Santé parle par exemple de la personne qui a dormi dans le même foyer que le cas, et cela dans le mois qui précède le début des symptômes. Vous voyez, c'est vraiment rigoureux là. Et ou une personne qui a touché le fluide corporel pendant la maladie de quelqu'un ou de son frère ou qui, ou encore une personne qui a manipulé le vêtement d'un patient, et même concernant un bébé qui est allaité au sein de sa mère qui est déjà déclarée atteinte ou qui présente les symptômes de la maladie.
Sandré Kambala, c'est vraiment alarmant. Nous allons en savoir un peu plus avec notre invité qui n'est autre que le docteur Floribert Ntumba Tshitoko, ministre provincial de la Santé. Avec vous, on s'arrête là et à la prochaine.
Merci beaucoup, J.R.
Soirée spéciale Radio Okapi ce 27 septembre avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles et nos équipes à Kinshasa. De 18h15, 19h15, heure de l'Est du pays, direct de la soirée d'ouverture du Festival Yandi à Bruxelles qui réunit 150 artistes congolais. 20h30, 21h30, heure de l'Est du pays, diffusion du concert Yandi qui se déroulera au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Bruxelles-Kinshasa réunit pour l'ouverture de Yandi en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Le 26 septembre, Radio Okapi vous offre la nuit de la fête de la culture congolaise. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Voilà, docteur Floribert Ntumba Tshitoko, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de la Santé. Vous êtes en ligne, bonjour.
Non, je pense que vous êtes trompé de numéro. C'est ici sur le ministre de l'Information FES, à l'Idée.
Voilà, donc nous allons recevoir notre invité, docteur Floribert, dans quelques instants. Nous vous rappelons, chers auditeurs, de participer à cette émission. Donc pour participer à cette émission, il faut composer les 081-070-20-50 pour les SMS ou encore le 081-890-63-94 pour les appels en direct. Et ceux-là qui aimeraient bien, souhaiteraient peut-être nous envoyer un mail et ils doivent le faire à action@radiocapi.net.
I'm going to go to the hospital.
Albert Candolo, papa m'a pas passé bien fait, bien que nous allons dire maintenant, son excellence Amel Bakayoko.
Je suis le bon
Voilà, nous parlons d'épidémie d'Ebola à Mouika et Lebo. Nous avons déjà en ligne notre invité, docteur Fortuna, ministre provincial de la Santé. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, qu'en est-il de la prise en charge de malades qui souffrent de d'Ebola au jour d'aujourd'hui?
Bon, à propos de la prise en charge, il y a d'abord les aspects de prévention, les aspects préventifs, qui consistent au niveau de la communauté à ce que les gens ne puissent pas entrer en contact avec ceux qui sont malades. Alors, les mesures prises sont, par exemple, ne pas se saluer, ne pas toucher à ceux qui sont malades, ne pas manipuler les cadavres, et immédiatement, s'il y a quelqu'un qui est mort, effectivement, brûler les habits de ce monsieur-là. Ça, c'est sur le plan général, mais spécialement pour le personnel de santé, ils devront absolument être protégés. Ils doivent se protéger quand ils sont dans le cadre des actions de prise en charge, ils doivent porter des gants et des masques et avoir des blouses. S'ils devront immédiatement brûler après l'utilisation.
Oui, ben, au jour d'aujourd'hui, il y a combien de cas déjà enregistrés? Parce que dernièrement, on parlait de chiffres autour de 150.
Dernièrement, c'est quand, mais je sais que jusqu'à ce que nous avions la réunion du comité au niveau provincial hier, le chiffre que nous avons, c'est 379 cas. Il faut partir de la période de la fin du mois d'avril jusqu'à maintenant, là, 379 cas avec 170 décès, dont 3 infirmiers.
Oui, ben, alors d'aucuns se posent la question de savoir que ce n'est pas la première fois qu'on puisse vivre un tel événement, parce que c'était avant autour de Bandundu, aujourd'hui c'est Kananga. Comment on n'arrive pas à soigner les malades et à empêcher l'évolution de ce virus?
Bon, l'arrivée d'une épidémie n'est pas toujours connue, hein. Là, il y a des mesures qu'on prend immédiatement pour lutter contre les épidémies dévastatrices comme celle qui sévit actuellement chez nous. Et il y a aussi le problème du système de surveillance, je l'ai évoqué un jour dans certaines émissions, où vu que le système de surveillance que nous avons est encore assez défectueux, il faudrait le renforcer. Et pour le renforcer, il faut absolument assez de ressources. Et un appui tant national qu'international, que les choses puissent marcher.
Mmh. Alors aujourd'hui, est-ce que les hôpitaux, comment s'organise l'accueil de ces malades dans les hôpitaux? Les soins sont normalement donnés gratuitement ou il y a quand même quelque chose qu'on demande aux familles des victimes?
Non, de manière générale, les soins sont gratuits, hein. Les soins sont gratuits. À partir de la fiche du malade, le gouvernement provincial a supporté le coût de cette fiche pour chaque malade. Et la prise en charge sur le plan médical, les médicaments sont aussi gratuits. Donc tout ça, c'est pour permettre à ce que ceux qui se sentent malades ne soient pas freinés par l'argent. Il faut dire qu'on n'a pas de sous, on ne peut pas aller à l'hôpital.
Oui, docteur, nous avons des réactions qui sont venues de partout. Je prends par exemple la réaction de Majestic où il dit « Je suis au Kasaï occidental. Quelle est la période d'incubation de la fièvre hémorragique d'Ebola et quelle année l'agent causal ?»
Bon, la période d'incubation, c'est de 2 à 21 jours. Ça veut dire que vous avez attrapé, vous êtes entré en contact avec un cas contact, comme on appelle. Dès que vous avez le virus, vous avez cette période entre 2 et 21 jours pour que les symptômes de la maladie apparaissent chez la nouvelle personne infectée. Ce qui fait que quand on a été dans une zone comme ça, il faut vous donner 3 semaines d'observation pour savoir si vous allez tomber malade ou pas. Et si vous dépassez les 3 semaines, alors là, il faut être content.
Oui, mais depuis que l'épidémie s'est déclenchée, on a comme l'impression que les chiffres vont toujours en hausse.
Non. Ça, ce sont des chiffres cumulatifs. Nous avons assisté à l'avancée qu'elle tient pratiquement au mois d'août. C'est en ce moment-là qu'on a eu beaucoup de cas.
Voilà, alors nous avons appris que des sources hospitalières, docteur, les sources hospitalières de Lyon s'étonnent que les mouvements des populations ne soient pas rigoureusement contrôlés. Les gens partent de Kampongu à Lyon et vice-versa. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait également d'autres cas dans d'autres villes, hein, en dehors même de Mouika.
Oui, mais c'est vrai, le mouvement de la population, c'est assez difficile de contrôler, ça c'est clair, parce que en dehors des voies principales, les gens peuvent emprunter les sentiers et emprunter d'autres pistes inconnues dans lesquelles on ne peut pas avoir un contrôle. Néanmoins, ce que nous faisons, c'est le renforcement des mesures préventives qui soient assez généralisées chez tout le monde pour que les gens comprennent qui sont conscients de l'existence de la maladie et des attitudes à prendre vis-à-vis de cette foudroyeuse maladie.
Mais est-ce qu'il y a eu des cas dans d'autres villes de la RDC, en Mimouka et Lobo?
Oui, on a pu noter quelques cas de cas qu'on a fait, le cas de contact et d'autres cas suspects, certainement, mais qui sont c'est à Lebo et à Moka orientés dans les centres qu'on appelle des centres d'isolement pour être traités et pour empêcher que ces gens-là n'entrent en contact avec les personnes saines.
Oui, mais ces cas ont été signalés où exactement?
Bon, nous avons pratiquement d'abord le site, depuis le centre de la maladie, c'est Kampongu. Et Kampongu est situé pratiquement à 12 km du chef-lieu du territoire de Lebo, donc il y a quelques cas qu'on a dit qu'on a trouvé à Lebo. Mais il faut dire que la plupart de ces cas qu'on a retrouvés en dehors de sites sont des cas qui répondent très très bien aux antipalidéens et aux antibiotiques, ce qui nous pousse à être loin de la fièvre hémorragique Ebola. Il y a également d'autres cas qui ont été annoncés à Monolith, mais actuellement ce cas-là évolue et on évolue très très bien d'après les rapports que nous avons reçus de là.
Oui, mais bon.
Il faut exclure la fièvre hémorragique.
Mais la maladie est contagieuse, la population est très inquiète, hein, la population congolaise en général. Nous avons eu des réactions de certains habitants de Katanga qui se disent peut-être qu'ils sont aussi, ils risquent d'être concernés par l'épidémie d'Ebola. Alors, est-ce que la maladie peut s'étendre également ailleurs que dans le conseil occidental?
Bon, il faut seulement qu'on soit assez prudent, sur les mouvements de la population. C'est ce qu'il faudrait au niveau de toutes les voies de sortie, c'est au niveau des frontières, les voies ferrées, au niveau des aéroports et de la route, c'est des mesures rapides pour dépister tous les cas suspects qui peuvent facilement être là. Mais déjà, sur place en province, les dispositions sont prises pour que des cas pareils soient orientés vers les sites d'isolement qui est à Cantonou.
Oui, mais vous avez dit que des dispositions devraient être prises. Qui devrait prendre ces dispositions, c'est-à-dire gérer les entrées et les sorties, contrôler cela, hein? Qui normalement devrait prendre ces décisions?
Bon, il y a un problème d'alerte. Pratiquement toutes les zones de santé qui sont voisines à la zone de Moka et aussi les provinces voisines, les provinces de Bandundu et Kasaï Oriental et effectivement Katanga, sont en alerte, doivent être en alerte
pour identifier les cas qui peuvent pratiquement présenter quelques signes qui sont à la fois avec cette épidémie.
Donc alors aujourd'hui, si on ne prend pas, si on ne s'organise pas correctement, on pourrait constater également d'autres cas ailleurs. Vous avez dit Kasaï Oriental, vous avez également cité le Bandundu et puis le Katanga qui risquerait d'être exposé.
Bon, mais l'hypothèse n'est pas, il faut pas aller dans les hypothèses. Moi, je crois que tout le monde est en alerte. Tout le monde est en alerte. Il faudrait qu'on soit aux aguets pour se défendre les dispositions qui conviennent.
Mais si on n'arrive pas à gérer les mouvements des populations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça le problème.
Bon, de toutes les façons, sur place, dans la ville de Kananga, qui doit être très très loin des autres provinces, nous n'avons pas enregistré des cas de fièvre hémorragique Ebola. On est en train de miser sur le cas contact et quelques cas suspects qui présenteraient certains des symptômes qu'on retrouve dans le cas de fièvre Ebola. Alors, jusqu'à présent, aucun cas de virus Ebola n'est annoncé en dehors du territoire de Mekong.
Oui, mais docteur Fortuna, tout à l'heure, en suivant les réactions des habitants de Kananga, justement de Kananga, je veux dire, Kananga, on évite de se saluer par la main, on évite de s'embrasser, parce qu'on sait que la maladie est contagieuse.
Oui, bah c'est vrai, ce sont des mesures que sont déjà généralisées au niveau de Kananga, et pratiquement dans toute la province, pas seulement Kananga ou soit la Chikapa, il est beau, tous les territoires environnants au territoire de Moïka, tout le monde observe toutes ces mesures-là pour éviter la propagation de cette épidémie.
Oui, docteur Fontenay, nous allons donner la parole aux auditeurs parce que c'est participent souvent dans cette émission. Il y a Patrick Kayembe de Kananga qui dit « Pourquoi il n'y a pas de vaccin contre la fièvre Ebola ? Puisque ce n'est pas la première fois que cette épidémie soit déclarée en RDC. »
Oui, c'est vrai. Le vaccin, ça, c'est un problème de recherche. Sur des grandes recherches, ça doit prendre assez du temps. Vous avez certaines pathologies que vous connaissez, pour lesquelles les vaccins ont été retrouvés après plusieurs années. C'est un problème de recherche, mais en attendant ça, comme c'est une maladie virale, et que les virus sont traitables par la vaccination, il faudrait respecter les mesures d'hygiène, donc mesures d'hygiène que nous avons pratiquement imposées, pour stopper la transmission de cette maladie. Mmh. Et aussi, les gens qui sont malades, ils sont isolés pour être traités.
Oui, il y a Emouk Kananga qui dit « Est-ce que le virus d'Ebola peut se transmettre par la manipulation des billets des banques provenant des zones touchées par la maladie ?»
Bon, là, c'est un peu trop fort. Hein. C'est trop fort. Les billets des banques, je ne pense pas. Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la propagation de la maladie en dehors du site de campement.
Alors, Souza de Kananga dit, qu'est-ce que nous pouvons considérer comme un cas suspect d'Ebola à Kananga?
Bon, les cas suspects d'Ebola à Kananga, c'est toute personne vivante ou décédée présentant la fièvre, avec la notion de contact, avec un cas de fièvre hémorragique, ou toute personne toutes sortes de contacts avec un animal mort ou malade. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est toute personne présentant la fièvre avec au moins trois symptômes suivants. Mort de tête, perte d'appétit, fatigue intense, douleur musculaire ou articulaire, difficulté à respirer, vomissement, diarrhée, douleur abdominale, difficulté à avaler et puis le hoquet. Ou aussi, toute personne présentant des saignements inexpliqués, ou tout décès inexpliqué. Je crois que ça répond pratiquement à la définition d'un cas suspect.
Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est quand même maîtrisée de ce côté-là?
Excusez-moi, équilibré?
Oui, est-ce que vous avez maîtrisé la situation, donc, parce qu'on ne va plus parler des chiffres alarmants?
Ah non, écoutez, en suivant la courbe épidémique, le nombre de cas a sensiblement diminué pendant les deux semaines actuelles qui constituent la 35e, 36e et 37e semaine.
Donc le nombre de cas sensiblement diminué et le nombre de décès. On compte maintenant en moyenne un cas tous les deux jours et un zéro décès pratiquement de deux ou trois jours.
Donc on peut dire que dans un mois, toute la situation sera maîtrisée.
Ah, pas dans un mois, monsieur. On ne sait pas. Nous continuons à faire la surveillance. Mais les grandes mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie et pour prendre en charge correctement ceux qui sont déjà malades.
Docteur Fortuna, nous rappelons que vous êtes ministre et professeur de la Santé. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci, monsieur le journaliste.